J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? C'est parfaitement prêt.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, vous êtes à l'écoute de Radio Canut. Eh oui, j'ai eu un blanc. Qu'est-ce que je fais tous les jeudis soirs de 19h à 20h? Eh ben, j'anime le Canut Info en compagnie de Laurent. Vas-tu bien?
Bonsoir.
Nous allons parler de quoi ce soir? On va être meilleur que ce démarrage un petit peu raté de ma part. Laurent va nous parler de Monsieur Macron et des hydrocarbures, ce qui me permettra d'enchaîner avec un triste anniversaire. C'était il y a 25 ans, et oui, Laurent m'a dit, oula, mais c'est vieux ça. C'est le naufrage de l'Erika. Et oui, pour les plus jeunes d'entre nous, ça cause moins. Ce qui est bien avec les naufrages, c'est qu'en fait, chaque génération a son naufrage. Vous voyez, on a tous et toutes en tête des images, ou en tout cas des lectures sur un naufrage, parce que ça ne cesse jamais. Ensuite, Laurent nous parlera de radioactif. Hein, est-ce que toi, qui m'écoutes, tu es radioactif? Et puis de pollution de l'air, et nous retournerons du côté de la Corée, et puis on fera un petit tour par Lyon et savoir ce qui s'y passe. Mais tout de suite, Monsieur Macron. Alors, on ne parle pas de Premier ministre, hein, tout ça, d'accord? Si jamais on a une info, on vous la donnera, mais maintenant, comme vous êtes tous et toutes connectés avec vos portables, vos mini-téléphones intelligents, vous aurez certainement des informations avant nous, si ça se trouve. Voilà, mais on va plutôt commencer avec Monsieur Macron, qui serait un menteur, d'après toi, Laurent.
Oui, ben, c'est en fait, si on se rappelle, en 2017, donc Macron venait juste d'arriver à la présidence, il avait annoncé officiellement mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire français. Ça a été même fixé dans une loi, donc la loi de 2017. Et pourtant, le site d'information, avec des journalistes dedans, nous démontre le contraire. A priori, il y a eu soit entourloupe, soit mensonge, soit un truc en tout cas pas clair. À l'été 2022, si on se rappelle bien, il y a eu quelques images qui sont sorties. En pleine canicule, en fait, il y a un méga feu de forêt à la tête de Buc, en Gironde, ou de Buch, en Gironde. Ça a transformé tout le paysage en cendres. Il n'y avait plus rien. Sauf qu'on voyait des bouts de trucs verts. Et c'était quoi? Bah, c'était les pompes à pétrole et, plus au loin, des citernes de 1000 m3. Montrant qu'en fait, ah bah mince, on sort du pétrole du sol français. Donc là, c'était le groupe canadien Vermilion qui était à l'œuvre. Alors c'est un contraste important parce qu'on s'était dit, mais attendez, mais normalement il n'y a plus d'extraction de pétrole en France. Ben non, en fait, c'est loin de là. Donc depuis 2017, 47 nouveaux forages pétroliers ont été autorisés par l'État français sur l'ensemble du territoire. d'après l'enquête de Disclose qui s'appuie sur des données recueillies auprès de 10 préfectures. Alors pourtant, donc comme je le disais, c'était en décembre de cette année-là, Macron signait une loi, je cite, mettant fin à l'exploitation des hydrocarbures dans l'Hexagone. Il avait dit, la phrase, je cite à nouveau, la France est le premier pays développé à prendre un tel engagement. Il était tout fier, le petit Macron, de dire qu'il n'y aura plus de pétrole, sauf qu'il nous l'a fait à l'envers. Et oui, car ce que le président a omis volontairement de souligner, c'est que le texte n'interdit pas aux industriels de creuser de nouveaux puits sur leur concession tant qu'ils disposent d'un titre minier délivré avant 2017. Et ce, jusqu'en 2040, minimum, parce qu'il y a un truc, c'est ils ont le droit de le faire tant qu'ils n'ont pas atteint l'équilibre économique. Donc s'ils ne l'ont pas atteint en 2040, ils ont le droit de continuer. Pas mal hein, quand même, cette enfoirade. Ça, le président, il le sait. Il aurait pu le mettre dans la loi. Il aurait pu faire fermer ces trucs. Non. En fait, c'était une loi pour faire croire qu'il faisait quelque chose sur l'environnement. Mais c'est une loi donc qui n'a pas empêché. Donc sur les concessions qui venaient d'être données ou qui avaient été données quelques années avant, de continuer, de planter, de creuser, d'essayer de sortir du pétrole ou n'importe quel hydrocarbure, en toute légalité d'ailleurs. Donc, ces sociétés pétrolières forent de nouveaux puits en France, sur le territoire même de l'Hexagone, et avec les conséquences qu'on connaît, d'aggraver la crise climatique, etc. Enfin bon, bref, on s'est fait en avoir. Alors, ils sont où ces puits de pétrole? Parce qu'on les voit pas bien, en fait, nous. Alors, c'est compliqué. Normalement, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières, le BRGM, devrait nous donner les infos. Mais là, il y a un énorme trou dans la raquette, comme ils disent chez Disclose. En fait, les sites d'extraction ouverts depuis 2014, ils sont classés confidentiels. Tu dis, putain, mais pourquoi ils les classent confidentiels? Alors, ils peuvent trouver des excuses, hein. Ils peuvent dire, c'est parce qu'il y a des risques de terrorisme. Enfin, toi, n'importe quelle excuse peut être utilisée pour classer des trucs confidentiels. Bon, bref, Disclose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on ne sait pas, on ne peut pas l'avoir par ce biais-là, on va chercher par un autre biais. Ils se sont dit, il y a 10 départements où on a des chances d'avoir de l'extraction de pétrole, parce que c'est là où il y a potentiellement un peu de pétrole. Donc, ils ont contacté les 10 préfectures de ces 10 départements en leur posant la question où il y a des puits de pétrole, est-ce qu'il y en a des nouveaux, etc. Donc 9 des 10 préfectures ont accepté de donner les informations, une transparence citoyenne quelque part. Par contre, la Seine-et-Marne, que dalle. Et c'est en Seine-et-Marne où il y en a le plus, hein, des puits de pétrole. Donc ils ont analysé ces données issues des 9 préfectures. 114 puits ont été approuvés, nouveaux puits de pétrole ont été approuvés par l'État ces 10 dernières années, dont 47, le fameux chiffre que je donnais tout à l'heure, si je l'ai donné je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est ça, 47 depuis l'entrée en vigueur, donc la loi de 2017, qui met fin officiellement à l'exploitation des hydrocarbures en France. Alors, les autorités préfectorales n'indiquent pas si ces autorisations se sont transformées en vrais puits, en fait ils sont allés jusqu'au bout. Pour ça c'est plus compliqué. Alors pour ça, Disclose a fait une autre enquête, ils ont cherché des articles dans la presse locale. Ils ont regardé les images satellites. Ils ont au moins 19 puits qu'ils ont pu trouver par ces biais indirects. Donc sur les 47, il y en a au moins 19 qui ont vraiment ouvert. Donc ces ouvrages made in France, entre guillemets, s'ajoutent aux 600 sites d'extraction déjà en activité en France. Donc on a au moins 619 puits de pétrole en France. C'est incroyable parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de pétrole en France. Il y en a un tout petit peu. Et ça fait quand même 619 puits minimum. Alors, l'État est allé plus loin. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les différents gouvernements ont approuvé par décret, ça passe pas par la loi, par décret, 5 nouvelles concessions pétrolières et l'agrandissement de 2 autres. Donc ça fait à peu près 400 km² de plus pour le forage de nouveaux hydrocarbures. Alors qu'on est toujours dans la fin du pétrole, mais non, faut pas le dire. En 2024, ça a continué, donc cette année actuelle. À Saint-Just-Sauvage, par exemple, dans le Marne, l'État examine actuellement l'ouverture d'une concession de 105 mètres carrés. Si elle est autorisée, cette seule concession sera la plus grosse hein, de France. Donc voilà, il y a un vrai business, mais c'est confidentiel, malgré le fait qu'il soit assez florissant. Alors c'est plutôt des PME ou des entreprises étrangères qui sont dans ce business-là, il y a Vermilion, donc le Canadien, il y a Bridge Energy, il y a SPPE, il y en a d'autres. Et c'est rentable. Parce qu'en fait, le prix du baril étant quand même plutôt élevé, ils gagnent de l'argent avec. Et c'est expliqué en détail par Bruno Agorges, qui est membre, qui est directeur des affaires institutionnelles de l'UFIP. L'UFIP, c'est l'Union française des industries pétrolières. Donc, lui, il explique bien les choses, hein. Il est dans le lobbying et dans le truc sur le pétrole. Et d'ailleurs, on comprend le discours, parce qu'ils y vont avec un fort lobby. Pour dire, ben non, mais il faut du pétrole en France. Alors, le premier argument de ce lobby pétrolier, c'est que le pétrole made in France, c'est la souveraineté énergétique. Là, on se marre, hein, parce que on extrait en France 580 000 tonnes de pétrole du sous-sol français, c'est 4 jours de consommation. Donc, on est souverain 4 jours. Donc, c'est-à-dire, ça n'arrête jamais, quoi, c'est négligeable. Donc, ça fait rire. L'autre justification, elle est encore plus drôle, parce qu'elle vraiment, ils se foutent de notre gueule. C'est une justification écologique. Vous allez me dire, non, mais attends, ils arrivent à trouver de l'écologie dans le pétrole. Ouais, ils sont très, très forts. Ils disent, un baril de pétrole produit en France émet 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'un baril importé, parce qu'il vient de moins loin, en fait. Alors, ça, c'est Vermilion, donc l'entreprise canadienne, qui le met dans sa doc technique. Bon. Leur argument, il a l'air un peu foireux. D'abord, le pétrole pourra jamais être écologique. Puis là, ça a l'air foireux quand même. Disclose, ils ont demandé, vous les sortez d'où ces chiffres, tout ça. Bon, bah là, Vermilion ferme leur gueule, ils disent rien, ils expliquent pas. Donc ça sent quand même l'entourloupe argumentaire. Donc voilà. Alors, les autres, là j'ai cité Vermilion, mais les autres entreprises disent à peu près la même chose. On produit moins loin, donc ça pollue moins. Comme si on était à une nuance de pollution dans le pétrole. Le pétrole, ça pollue tout court. Plus ou moins, ça ne change pas grand-chose, en fait. On est dans la marge. Surtout que la réalité est vachement plus nuancée. Garantir que le pétrole extrait en France sera consommé en France, on n'a pas de preuve de ça. En fait, ça se trouve, le pétrole, il est consommé en Pologne. Du coup, il va faire des kilomètres et des kilomètres en camion. Déjà, pour le sort, entre la concession et la raffinerie, c'est souvent fait en camion. Un camion, ça pollue 18 fois plus que le bateau, le pétrolier qui transporte le bateau sur les mers. Et si ça va à l'autre bout de l'Europe, vous imaginez que le bilan carbone, finalement, du pétrole, il est pourri, comme tout bilan carbone d'un hydrocarbure. Donc voilà, c'est du foutage de gueule. Alors c'est même officiel comme foutage de gueule et comme parce que l'autorité environnementale qui a évalué la demande de forage de Bridge Energy à Nonville, on va parler plusieurs fois de Nonville, ils ont dit, ce projet c'est pas un gisement de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, hein, pas du tout. Ils ont dit non, ça marche pas l'histoire de que c'est moins polluant que celui qui viendrait d'Arabie Saoudite. Non, pas du tout, ça marche pas. Voilà. Donc d'après leurs calculs, un seul puits émettra 15 500 tonnes de CO2 pour les 5 000 tonnes de pétrole produits à Nonville. Donc voilà, c'est pas intéressant du tout. Alors c'est pas les seuls impacts environnementaux de ces puits de pétrole français. Malheureusement, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Non, il y a à Nonville comme ailleurs, ces sites, ils menacent l'environnement de manière indirecte parce que souvent les puits sont proches de nappes phréatiques avec des risques de pollution importants. Alors c'est la régie Hauts-de-Paris qui est en train de poursuivre au tribunal administratif. Ça date d'avril dernier. La légalité des travaux à Nonville, parce qu'en fait, à Nonville, s'il pollue la nappe phréatique, il y a une partie de l'eau de Paris qui sera impropre à la consommation. Alors, ce n'est pas un risque isolé que là-bas, dans la Marne, par exemple. 18 forages ont été autorisés en 2020 sur une concession de Ville Perdue. Et pourtant, il y avait eu un avis négatif, parce qu'en fait, ils sont très proches du point de captage d'eau potable. Ils en ont rien à foutre. Dépollution des cours d'eau par l'exploitation pétrolière sur le territoire français, il y en a eu plusieurs, voire plein, dans le passé. On se rappelle de 2020, 200 litres de pétrole qui atterrissent dans la Seine à cause d'une fuite sur un tuyau par l'entreprise Vermilion, encore eux. Voilà. Depuis 2010, 22 accidents en fait sont intervenus sur les sites d'extraction du pétrole français. Des fuites, des rejets volontaires dans l'eau, un incendie, enfin il y a eu plein de trucs. Donc Bref, c'est de l'arnaque. Une fois de plus, les libéraux et leur chef, donc là qui est Emmanuel Macron, soit ils mentent, soit ils travestissent la réalité pour faire croire que le pétrole français, il serait bien. Non, en fait, au final, ça a les mêmes conséquences de détruire la planète et d'enrichir les capitalistes, puisque c'est quand même ça le but. Donc bref, le pétrole franco-français, il est aussi pourri que le pétrole d'ailleurs.
Alors, le pétrole, c'est pourri.
Voilà, justement, ça, tu vas en parler.
Ça, c'est dit.
C'est une belle preuve.
Nous allons reparler de ce qui s'est passé le 12 décembre 1999. Alors, ce qui s'est passé le 12 décembre 1999, ce n'est que le début d'une catastrophe. C'est le naufrage de l'Erika. Le 12 décembre 1999, soit il y a 25 ans, ce pétrolier se brise en deux au sud du Finistère. À son bord, plus de 30 000 tonnes de fioul lourd. C'est l'une des pires marées noires qui va toucher les côtes françaises. 400 km de côtes françaises seront touchées. C'est à l'époque donc ce qu'on appelle un pétrolier à coque simple qui a été construit au Japon en 1975. Alors ces histoires de coque simple, ça a fait après beaucoup de débats et beaucoup de polémiques. Hein. Vous savez, il a fallu renforcer les pétroliers comme si jamais cela suffisait à nous épargner des catastrophes. Bien évidemment, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire et ce qui aujourd'hui continue à être un problème, c'est la passation de ces pétroliers de l'un et de l'autre. Je vais revenir là-dessus. En tout cas, à ce moment-là, lors du naufrage, ce pétrolier appartient à une compagnie sous pavillon maltaise, Tevere Shipping, détenue par l'armateur italien basé à Londres, Giuseppe Savarese. Et puis, c'est une gestion nautique technique qui est assurée par la société Panship. Et ce pétrolier est affrété à ce moment-là par Total pour un transport précisément de 30 884 tonnes de fioul lourd pour un trajet de Dunkerque à Livourne en Italie. On va aussi parler beaucoup dans cette affaire de ce naufrage de l'Erika, et en particulier au moment du procès, de la société Rina, c'est une société italienne de classification, Registro Italiano Navale, qui avait décelé des problèmes hein, sur ce pétrolier, sur cette coque, avant le naufrage en 1999, ce 12 décembre 1999, mais n'avait pas fait de recommandations sur des documents de classification à bord, ce qui, a priori, était une petite faute. En tout cas, le pétrolier a quand même changé tout un tas de fois de nom, de pavillon et d'amarteur, ce qui, évidemment, est une problématique qu'on va retrouver dans bien des cas avec ces pétroliers. Alors d'abord, comme je vous le disais, ce pétrolier a été construit en 1975 sous pavillon japonais. Il s'appelle d'abord le Shinsei Maru, puis il va passer sous pavillon du Panama, il va s'appeler le Glory Ocean, bah oui c'est joli, et puis en 77 il va s'appeler le Intermar Prosperity, là il va passer sous un gestionnaire nautique qui s'appelle Berwick Shipping Intermarine. En 1980 ça change de gestionnaire nautique, ça s'appelle Sous Energy Shipping Company Wallem Ship Management. En 85, alors là ce qu'il faut savoir déjà hein, c'est que depuis 1977 on n'est plus sous pavillon du Panama, on est sous pavillon du Liberia. En 85, hop, nouveau nom, South Energy. On passe avec un amarteur qui s'appelle Gaymont Incorporated Monrovia. Et puis en 86, toujours sous pavillon du Liberia, nouveau nom, le Jare Energy. Ça fait déjà beaucoup, mais ce n'est pas fini. En 1990, ce Shinsei Maru de 1975 s'appelle le Prime Noble. En 93, il va s'appeler le Prime Nobles. Et en 1994, le Noblesse. Et oui, c'est des petits changements comme ça. Depuis 1990, il est donc sous pavillon maltais. Il va passer en 90 sous la coupe de l'amateur Desert Peace Chips. Et puis sous le gestionnaire nautique Safa Maritime Enterprise. Ça fait beaucoup, hein, tout ça, je vous dis. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Et puis, donc, je vous le disais, en 94, il s'appelle le Noblesse. Il est toujours sous pavillon maltais. Et là, il va changer de nom en 1996 pour devenir le fameux Erika. En 94, il est passé sous l'armateur Tevere Shipping. Il avait déjà changé de gestionnaire nautique et c'est donc en 98, sous le nom de l'Erika, toujours sur pavillon maltais, toujours sous la coupe de l'armateur Tevere Shipping, qu'il passe sous la coupe du gestionnaire nautique Panship Management. J'espère que vous avez suivi sous votre joli tableau blanc. En tout cas, c'est donc aussi une succession de petits problèmes. Le samedi 11 décembre 1999, la mer est assez agitée, il faut le dire, à 300 km au large de Brest et 400 km de Saint-Nazaire. Le second de l'Erika, le second capitaine de l'Erika, affrété par Total, hein, informe le commandant qu'il a découvert des fissures sur le pont du bateau. Petit problème. Mais le commandant du navire garde espoir, il se dit... Pas de souci, il va changer son cap, hop, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de la mer quand même, hein, le temps est pas très beau, mais en tout cas, bon, il change, et puis le temps passe. Le dimanche 12 décembre, le pétrolier a donc quitté Dunkerque, comme je vous le disais, il va vers Livourne en Italie, et là, c'est le premier appel de détresse, et paf, à 70 km au sud des côtes dans le Finistère, l'Erika se brise en deux. Donc là, ce sont d'abord plusieurs milliers de tonnes de fuel lourd, hein, qui vont se décharger, se déverser dans la mer. Et puis, comme je vous disais, il y a un temps quand même assez costaud, hein, donc ce qui fait que la nappe va s'éclater en petite nappe et en grosse nappe, hein, plutôt, allez, carrément. Il y a du vent, il y a de la tempête, il y a des courants assez forts et des marées assez importantes, ce qui fait que ça accentue la fragmentation de cette première nappe qui s'échappe. D'abord, ce qui est aussi intéressant de prendre en compte, c'est les réactions officielles. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous qui m'écoutez, mais peut-être que vous en souvenez. Ce n'est pas grave, tout va bien. Ce sont les réactions d'abord officielles qui nous sont données. C'est un peu comme le fameux nuage. Hein. Vous savez, il y avait un mur. C'est du nuage radioactif. Il y avait un mur. Et ben là, du coup, c'est pas grave, tout va bien. On nous dit que il n'y a pas de risque que les nappes arrivent sur les côtes. C'est ce qu'affirme le 12 décembre un responsable du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, ce qu'on appelle le CEDRE, qui a été créé en 1979, au moment de la Moco Cadiz. Ça aussi, selon votre génération, ça vous parle un petit peu en termes de naufrage. Hein. À ce moment-là, quand même, du côté de la préfecture maritime de Brest, on commence à mobiliser des moyens pour lutter contre la pollution. On déclenche le fameux plan Polmar, hein, qui va permettre de mettre en œuvre des moyens exceptionnels en termes de matériel et d'humains pour lutter contre les pollutions marines. La préfecture va solliciter la collaboration d'autres pays au niveau britannique, allemand et norvégien, là où il y a des experts aussi et là où il y a du matériel, pour essayer de lutter contre une pollution qui s'avère quand même malgré tout bien présente. Bon, il faut dire qu'il y a aussi l'histoire de ce bateau qui est en deux. Donc l'idée, ce serait peut-être d'aller pomper ce fioul lourd qui reste, mais il fait mauvais, donc ce pompage est rendu impossible. Le lundi 13 décembre, c'est la partie arrière de l'Erika qui est remorquée par l'Abeille Flandre vers la haute mer. L'idée, c'est d'aller le plus loin, hein, pour essayer d'enlever les fuites de la côte. Hein. Sauf que en 40 minutes, à 14h50, à 80 km des côtes bretonnes, le machin sombre. C'est là que la catastrophe continue à s'amplifier. Il faut savoir que donc il y a les deux parties du pétrolier qui sont séparées et qu'il y a donc ces hydrocarbures qui sont à l'intérieur. Il y a une dérive de cette nappe pétrolière et il y a une réunion de crise le 14 décembre qui est organisée par la préfecture à La Rochelle. Là-dessus, le chef du cabinet du préfet estime que les vents sont forts, certes, qu'il va y avoir des fonds importants, mais que ces vents, grâce à Dieu peut-être, vont éloigner la nappe de la côte. Ça tombe bien quand même, le vent il est dans le bon sens. Donc il n'y a pas de crainte à court terme, estime à ce moment-là le chef du cabinet du préfet. Certainement que ce n'est pas lui qui décide, que c'est certainement le préfet et les ministères au-dessus. En tout cas, il y a déjà des gens qui sont à ce moment-là mobilisés. Il y a les bénévoles sur les côtes. Et puis, à ce moment-là, une association de protection des oiseaux dont on va continuer à entendre parler beaucoup par la suite, mais qui à ce moment-là a pris toute son importance. C'est la LPO, hein, vous savez, la Ligue de protection des oiseaux, qui a été extrêmement active et qui va tout de suite arriver pour secourir les oiseaux pour éviter qu'ils soient mazoutés, enfin qu'ils restent mazoutés, essayer de secourir le maximum d'oiseaux. À ce moment-là, du côté du département du Finistère, on se prépare aussi à mobiliser les secours. Et puis le 17 décembre, il y a déjà des nappes de 150 à 50 mètres de diamètre de fioul lourd qui sont repérées pas loin de l'île Dieu et pas loin de Belle-Île. On sait que ces îles vont être touchées et en particulier l'île Dieu d'une manière assez importante aussi, comme l'île de Ré. Le 22 décembre, il y a des soldats et des pompiers qui sont déployés. C'est l'activation du plan Polmar Terre en Vendée. Et puis ensuite, ça va toucher Loire-Atlantique, le Finistère et le Morbihan. Et là déjà, c'est la catastrophe environnementale. Hein. Les côtes sont salopées, mais surtout les oiseaux. Et c'est là où LLPO aura des chiffres assez catastrophiques sur ces oiseaux. Mais il faut savoir aussi que cette catastrophe, cette marée noire, elle va toucher des endroits où les oiseaux viennent nicher. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'oiseaux et c'est pour ça qu'il y a une mortalité extrêmement importante. En tout cas, le 23 décembre, on voit les galettes sur les côtes du Finistère, hein, Guivenec par exemple. Et puis, ben, c'est Noël, c'est sympa Noël avec ses cadeaux et ses galettes et ses nappes. Et donc là, la marée noire prend toute son ampleur et il y a des gens qui vont pas fêter Noël, qui vont pas passer non plus le jour de l'an avec du champagne et qui vont se rendre sur ces plages, ces côtes et qui vont commencer à vouloir nettoyer. Et là, c'est donc tout le monde, hein, les militaires, les pompiers dont je vous ai parlé, évidemment des gens professionnels, mais c'est aussi toutes les petites villes, toute la côte qui va se mobiliser et puis des centaines de bénévoles qui vont arriver. L'idée, c'est de faire très vite pour essayer d'enlever ces tonnes de fioul qui commencent à se répandre et de voir comment on va faire. Parce qu'il y a eu des boudins qui ont été mis, vous savez, ces fameux boudins qui sont censés stopper ces nappes. Il faut savoir que ces boudins, aujourd'hui, il y a encore des gens qui travaillent à comment améliorer et comment faire en sorte que ces boudins fonctionnent. On est quand même en 99, c'est encore pas top, hein, quand même. Surtout que là, dès qu'il y a de la houle et dès qu'il y a de la marée et dès qu'il y a du vent et de la tempête, ça devient très compliqué. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le 26 décembre, il commence à y avoir un comptage du côté de la LPO et on commence à savoir qu'il y a déjà 10 000 oiseaux mazoutés qui sont déjà récupérés. Mais à ce moment-là, intervient quelqu'un que vous avez peut-être oublié et que vous ne connaissez même pas selon votre âge. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, il ne faut pas vous flageller. C'est Dominique Voynet, la ministre de l'Environnement. Une ministre soi-disant écolo qui va expliquer qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe écologique. Bah non, il y a eu pire, dit-elle. Sauf qu'elle va vite se reprendre, hein, Dominique Voynet, en disant qu'elle a peut-être mal causé et qu'en fait, elle ne voulait pas céder à la panique et qu'effectivement, elle s'y est mal prise dans sa communication. En tout cas, voilà, là, Dominique Voynet, elle s'est plantée quand même assez méchamment quand même. Donc, je vous le disais, après la fin décembre, le début janvier, toutes ces galettes-là, vous savez, c'est un machin qui colle, c'est hallucinant à enlever, hein, ça va se répandre un petit peu de partout. Et puis, ce qu'on apprend aussi à ce moment-là, c'est que certains villages, certaines villes plus au sud vont s'inquiéter, vont être touchés aussi par des galettes d'hydrocarbures. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des petits malins qui viennent de dégazer.
Ouais, qu'en profite.
Et qu'en profite pour laisser échapper tout ça. En tout cas, ça va donc être de longs mois, hein, de nettoyage. Il va y avoir aussi la sortie d'un rapport qui s'appelle le rapport Touret-Guibert. C'est donc sous l'autorité de Georges Touret, administrateur général des affaires maritimes, et de Jean-Louis Guibert, donc ça porte leurs deux noms, secrétaire général de l'Institut français de navigation, qui va remettre donc au gouvernement Lionel Jospin en janvier 2020 un rapport. C'est une soixantaine de pages à peu près qui vont soulever des petits problèmes. Tout ce qui concerne les transports maritimes, hein, le fait que ça change de nom tout le temps, qu'on ne sache pas bien qui sont les armateurs, qu'il y ait peu de contrôle, et puis qu'il y ait tous ces pavillons de complaisance. Hein, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, ça parle de l'un à l'autre. Et souvent, c'est quand même pas les meilleurs pays du monde en termes de sécurité maritime. Hein, c'est marrant, hein, quand même, tout ça. Ce que le rapport dit, c'est que c'est pas la faute de l'équipage. Déjà, là, il y a quelque chose qui est levé. C'est pas l'équipage, ils étaient 26 à bord, qui sont responsables, même si le commandant a quand même tardé à signaler un problème. Et que c'est pas non plus tellement la fête de la tempête qui a causé des problèmes aux pétroliers. C'est pas la tempête qui a abîmé le pétrolier. Il aurait dû normalement résister, que c'était pas complètement insurmontable, d'après ce rapport, c'est le terme qui est employé. Mais que c'est bien la rupture d'une cloison interne entre deux citernes qui est la cause qui est causée par une corrosion d'oxydation foisonnante et détachement de plaques de rouille, je cite, qui ont amené le navire à couler. Et ce sont donc les fissures qui sont propagées sur toute la coque qui ont entraîné la cassure du navire. Le rapport va donc mettre en lumière ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est le fait que le bateau a changé un sacré paquet de fois de nom, qu'il change d'amateur, de pavillon, et que tout ça laisse donc peu de traçabilité sur le suivi de ce pétrolier, puis que Total, finalement, on a peut-être un peu rien à foutre aussi, hein, quand même. En tout cas, c'est ça que les rapporteurs, hein, dont je vous disais Touré et Guibert, vont mettre en avant aussi, c'est qu'en fait, avant d'arriver à savoir à qui appartient l'Erika, ils vont se battre un petit coup de temps, parce que aujourd'hui, si on le sait, à l'époque, c'était pas si simple, parce qu'encore une fois, dans les affaires maritimes, eh ben, il y a peu de transparence. Et puis le fait qu'il y ait ce sous-affréteur, Total, vient aussi amener tout un tas de questions sur qui commande qui et comment. Et pour quel sous, hein, quand même, un peu aussi. Et puis, bon, le rapport va aussi montrer une chose, c'est que ben, c'est bien peut-être de mettre des règles pour peut-être inspecter des pétroliers et des navires d'une manière générale, mais c'est qu'en fait il n'y a pas d'inspecteur suffisant et que donc ça risque, ils risquent pas de suivre les sociétés de classification qui sont là justement, elles, pour inspecter ces fameux pétroliers, ces fameux navires. En tout cas, l'Erika avait déjà été contrôlée depuis plusieurs années et à chaque fois, il y avait démontré qu'il y avait des problèmes avec ce pétrolier. Ce qui veut dire que rien n'est remonté sur la dangerosité même de cette coque qui était oxydée, abîmée et qui risquait donc de se fissurer. Voilà, le rapport... Donc démontre quand même des choses qui aujourd'hui nous paraissent très simples, hein, mais qui à l'époque sont mises en avant. Et puis il y a donc ce procès qui va ensuite démarrer. Il faut savoir quand même que le naufrage de l'Erika, c'est donc 400 km de côte, comme je vous ai dit, 250 000 tonnes de déchets d'hydrocarbures, hein, 300 000 oiseaux qui sont morts. C'est quand même assez impressionnant. Sur les côtes même, il y a 150 000 oiseaux qui ont été récupérés, 20% ont été sauvés. C'est pas beaucoup, hein, quand même. Donc, il faut savoir qu'il y a donc un procès. D'ailleurs, je vous le raconte tout de suite. En 2012, Total est reconnu définitivement responsable par la Cour de cassation. C'était le 24 septembre 2012. La juridiction va valider l'arrêt de la Cour d'appel qui, en mars 2010, avait condamné le groupe pétrolier Lamarter, Giuseppe Savarese, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Antonia Polara et la société de classification RINA. Il y avait des collectivités locales et des associations qui avaient aussi déposé des plaintes, mais qui n'ont, certaines de leurs plaintes n'ont pas été suivies. Mais pour le temps, il va y avoir 200 millions d'euros d'indemnité. Alors, le procès va commencer le 12 février 2007. Hein, c'est-à-dire quelques années après quand même la catastrophe du 12 décembre 1999. 15 accusés. Le propriétaire italien de l'Erika, Giuseppe Savarese, le gestionnaire, Antonio Polara, le commandant indien du navire Karun Matur, la société de classification italienne RINA, les quatre responsables de secours à terre qui sont accusés d'avoir multiplié les dysfonctionnements, Total, un des directeurs juridiques et deux de ses filiales. Il faut savoir que c'est aussi c'est un procès qui s'est terminé le 13 juin 2017 avec un rendu du jugement le 16 janvier 2008, ce qui... Moi, je me souviens un petit peu aussi de ce procès. Pourquoi ? Parce que on était dans une période d'élection et que ça avait remis en avant des personnalités politiques et des possibles candidats et candidates à la présidentielle. On reparle de Dominique Voynet, on parle de Philippe Devilliers, qui est à ce moment-là président du Conseil général de Vendée, et puis apparaît aussi à ce moment-là Corinne Lepage. Vous vous souvenez de Corinne Lepage ? Hein, elle était présidente de Parti Civil. Elle est présidente à ce moment-là du mouvement CAP 21.
Et elle était avocate.
Et oui, et ben, voilà.
Elle est toujours. Mais...
Ouais, elle est toujours. En tout cas, le rendu le 16 janvier 2008 fait tac. Coupables de fautes caractérisées, Total et RINA sont condamnés à une amende maximale pour des sociétés, 375 000 euros. L'amateur Giuseppe Savarese et le gestionnaire Antonio Polara à 75 000 euros. Et puis le capitaine, lui, est relaxé. Tout simplement. Donc, Total est reconnu coupable de pollution maritime par donc le tribunal, doit verser 192 millions d'euros d'indemnisation aux parties civiles au titre des dommages et intérêts, dont 13 millions au titre de préjudice écolo. Ce préjudice écolo, il est important aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on n'en voulait pas, hein, de cette affaire. Le 25 janvier 2008, Total ne perd pas le Nord, fait appel de la condamnation, tout en décidant de vouloir verser quand même des dommages et intérêts. Le 30 mars 2010, la Cour d'appel de Paris confirme les condamnations de RINA, Giuseppe Savarese, Antonio Polara et Total aux amendes qui avaient été portées, et porte le montant des indemnisations de 192 500 000 à 200 600 000. Hein, Total va verser 171 500 000 et RINA les 30 millions restants. Mais à ce moment-là, la Cour d'appel va exonérer Total de la responsabilité civile en disant, attendez, il y a une convention internationale qui dit que s'il y a des propriétaires et des affréteurs, les propriétaires et les affréteurs ne peuvent pas être condamnés puisqu'il existe un fonds d'indemnisation. Donc vous voyez, c'est pas à Total et à l'affréteur de payer. Ni au propriétaire, c'est ni à l'affréteur ni au propriétaire, donc c'est pas à Total de payer. Total va quand même aller donc en cassation, hein, en se basant justement sur ce principe pour tenter de faire tomber le jugement de culpabilité. C'est ça l'idée, c'est pas tant le pognon en fait de Total. C'est l'idée de dire on n'est pas coupable, on n'y est pour rien. Sauf que c'est l'avocat général Didier Bocon-Gibaud à l'époque qui demande en avril 2012 l'annulation de l'ensemble de la procédure judiciaire, estimant que la justice française n'était pas compétente sur le dossier. Sauf que le 25 septembre 2012, la Cour de cassation, elle va rejeter le pourvoi dans l'intégralité. Nick, l'avocat général. Et donc, va confirmer la responsabilité de Total. Hop. Et voilà. Et surtout, va confirmer ce principe du préjudice écolo. Donc, Total a voulu faire croire que le groupe n'était pas coupable. Ça ne marche pas. C'est important parce que l'arrêt, il va fonder cette jurisprudence quand même dans le transport maritime et surtout dans le transport du pétrole. C'est une responsabilité du préjudice écologique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui fait marque et fait trace. Donc... on se dit que c'est super chouette, voilà. Sauf que donc un impact environnemental extrêmement important, hein, je vous le disais, entre 150 000, 300 000 donc oiseaux entre la mer et la plage, 250 000 tonnes de déchets, et puis un coût quand même extrêmement important, en millions d'euros. On parle de 370 millions d'euros, hein, c'est une estimation basse. Daté d'un rapport de l'INRA de 2006, je crois, commandé par la OLS. Donc finalement, Total s'en sort plutôt finalement pas si mal, hein, vous voyez, hein, finalement, dommage facile. Mais on peut se dire que où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors je vous rappelle qu'il y a quelques années après, en France, on a eu le Prestige. Novembre 2002, le pétrolier qui, au large des côtes de Galice en Espagne, c'est venu jusqu'un petit peu des côtes françaises, mais surtout évidemment sur l'Espagne, 63 000 tonnes de fuel lourd dans l'océan. C'est une marée noire européenne à ce moment-là, mais on se souvient que en 67 le Torrey Canyon 120 000 tonnes, hein, c'est énorme. En 75 le Bolen 9 800 tonnes, le 98 000 tonnes, excusez-moi. En 1980 le Tanio, on a l'Exxon Valdez évidemment. En 89 ça aussi selon votre âge vous vous en souvenez. Plus récemment en 2020 c'est le Cachio, au large de l'île Maurice, mais la Moco Cadiz, hein, non, le Bolem, excusez-moi, c'était bien 9 800 tonnes, la Moco Cadiz, l'année 1978, 225 000 tonnes, hein, ça aussi, selon votre âge, vous en souvenez bien, le Castillo aussi en 83, en fait, ça n'a jamais cessé ces dernières années, et puis l'une des pires pollutions ces dernières années, qui n'est pas là le fait d'un pétrolier, mais qui est bien le fait... du pétrole, c'est BP Deepwater, hein, vous avez peut-être vu le film, hein, là aussi des cachotteries de la part de BP.
C'est la plateforme qui...
Ouais, c'est la plateforme qui... Il y a eu une explosion, mais tout ça parce que BP voulait aller faire des profits et à pousser et à maximiser la production, et donc il y a eu une grosse explosion. Le pétrole, malgré tout, à chaque fois qu'il y a une marée noire, on se dit qu'on va remettre des règles en plus, hein, on va mettre des doubles coques, des triples coques, des quadruples coques, on va contrôler, mais en fait tout ça n'empêche pas une chose, c'est qu'il y a peu de transparence toujours, qu'il y a toujours des pavillons de complaisance, que les pétroliers changent de main et qu'il y a toujours du profit de la part de ceux de celles, c'est-à-dire des multinationales qui produisent, qui vont chercher le pétrole, comme Total, comme BP, enfin tous ces groupes.
On va rester dans l'environnement et on va parler un petit peu de pollution autre que le pétrole, puisqu'on a trouvé du tritium, donc c'est de l'hydrogène radioactif, qui a été retrouvé dans l'eau potable de nombreuses communes de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Alors le tritium, ça vient d'où ? Des centrales nucléaires. Alors qu'est-ce qui se passe ? On va essayer de faire le point un petit peu là-dessus, suite à un article de Mediapart et aux analyses et aux chiffres fournis par la CRIRAD. Donc la CRIRAD, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité qui a été fondée suite à l'accident de Tchernobyl, puisque les autorités françaises n'avaient aucune transparence sur la radioactivité. La CRIRAD a été fondée pour justement donner des chiffres, mesurer la radioactivité en France. Donc là, on cherche à comprendre un peu d'où vient cette radioactivité. Alors, faut savoir que depuis 2005, c'est ça qui est intéressant, c'est que le contrôle du tritium dans les eaux potables est obligatoire. Alors, me dire c'est obligatoire, mais ils le contrôlent, mais est-ce qu'on a les infos ? Ben, c'est là où ça le bas blesse, et c'est sûrement fait exprès, puisque les résultats des analyses sont mis à disposition du public, certes, mais inutilisables. Pourquoi ? Elles sont sur soit le site Euromnat, donc c'est très compliqué pour aller dessus, soit sur le fameux data.gouv.fr, vous avez tout plein de chiffres, mais là c'est des chiffres bruts, donc très peu analysables, en fait, par le commun des mortels. Heureusement, donc du coup, la CRIRAD a téléchargé tous ces chiffres bruts, les a analysés et nous propose... Ben voilà, un petit résumé. Alors, grosso modo, 2000 communes sont concernées, 15 millions d'habitants sont concernés, ces 15 millions d'habitants et ces 2000 communes ont de l'eau potable contaminée au tritium. 281 communes d'Île-de-France, notamment, dont Paris, Boulogne-Billancourt, Nanterre, etc., Créteil, Versailles. On la trouve également donc dans le Val-de-Loire, Nantes, Angers, Tours, Orléans, en Vallée du Rhône, Lyon, oh c'est nous, Bolène, la Garonne, Agen, Marmande, dans la Vienne, etc. Ces secteurs sont tous situés soit proche d'une centrale nucléaire, en amont, forcément, et les centrales rejetant quelques petites parties de leur radioactivité. Donc voilà ce qu'il en est. Alors, ça a été aussi détecté en Côte d'Or. Alors là, c'est pas lié aux centrales nucléaires, c'est lié au CEA de Valduc. C'est là où sont fabriquées les armes thermonucléaires françaises. C'est le site d'ailleurs qui rejette le plus de tritium par voie atmosphérique, notamment 60% de la totalité. Alors, on sait que la quantité de communes concernées est très sous-estimée pour deux raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces chiffres, j'ai pas encore donné les valeurs, on va en discuter après des valeurs. D'abord, les mesures sont pas très sensibles. Grosso modo, on a un bruit de fond. Un bruit de fond, ça veut dire qu'il y a une quantité naturelle de tritium radioactif, entre 0,1 et 1 becquerel, en général. Les capteurs qui sont là pour mesurer sont assez mal réglés ou mal choisis, puisque, alors il y en a quelques-uns qui détecte à partir de 2 becquerels, donc là ça va, mais il y en a qui détectent à partir de 7, 8, 10 becquerels. Du coup, on a une partie des mesures où le résultat donne pas de présence, alors qu'en fait c'est parce que le capteur il détecte pas 7 ou 8 becquerels par exemple. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que toutes les communes ne sont pas contrôlées. Et ça c'est bizarre, parce qu'officiellement, sur les 4000 communes en France, toutes devraient publier leurs résultats de contrôle du tritium, puisque c'est obligatoire depuis un certain nombre d'années. Sauf qu'il y a plein de communes qui ne le font pas, et alors non, 4000 communes qui ne le font pas, je ne sais pas combien il y a de communes en France au total, donc ça fait quand même pas mal. Il y a des grosses villes, hein, Beauvais par exemple, 57 000 habitants, préfecture de l'Oise, on n'a aucun chiffre sur le tritium. Alors pourquoi ? Ben on ne sait pas. Soit ils n'ont pas de capteur, soit ils ne donnent pas les chiffres, enfin il y a un truc, et pourtant c'est obligatoire. Donc voilà, peut-être qu'ils ne relèvent pas, on ne sait pas, ou ils ne les publient pas. Donc voilà, grosso modo on trouve du tritium un petit peu partout. Alors la question qui se pose bien évidemment, c'est est-ce que c'est dangereux ? On ne sait pas tant que ça si c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que les faibles doses sont assez peu étudiées. Ils sont pas bêtes, hein, les nucléophiles, ils vont pas financer des études pour voir si ce qu'ils font c'est dangereux. L'Organisation mondiale de la santé a un niveau de normes ultra élevé. Tout le monde, scientifiques compris, disent que ça a aucun sens, puisque la norme dit jusqu'à 10 000 becquerels ça va. Vous mettez à 10 000 becquerels, vous vivez dans un coin, vous buvez de l'eau à 10 000 becquerels, vous n'allez pas aller bien loin hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est cette norme-là qui existe aujourd'hui. En fait, grosso modo, ça devrait être beaucoup plus bas. Il y a une sorte de mini-consensus autour de 10-20 becquerels. Or, dans les Pays de Loire, par exemple, l'eau du robinet contient jusqu'à 30 à 50 becquerels par litre quand même. Donc là, on serait au-dessus des risques. Alors, évidemment, quand on raisonne, les risques sont relativement faibles, mais ils sont pas nuls. Donc il y a plein de gens qui attrapent des cancers à cause de ce truc quand c'est pas nul. Voilà. Et alors, on sait pas bien, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi on n'en parle pas beaucoup ? Parce que c'est un tabou. L'industrie nucléaire, qui a des moyens de pression énormes, qui a l'État notamment derrière lui, ne communique pas sur cette radioactivité, qui est soit relâchée légalement, soit illégalement. Alors là, on le sait un peu plus quand c'est illégal et que c'est gros, parce qu'on a la CRIRAD, entre autres, qui fait des mesures et qui les annonce. Mais sinon, ils ont une autorisation légale de rejet. Et là, on n'en parle pas. Donc ça augmente les risques de cancer, ça fait partie de l'environnement ultra pollué dans lequel on vit, et malheureusement, on passe ça sous silence. Donc c'est intéressant que le CRIRAD ait pu nous analyser ces chiffres, parce que l'eau du robinet, c'est celle qu'on boit quand même tous les jours. Alors toujours sur la pollution, on va revenir sur la pollution de l'air, parce que là c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a des chiffres qui ont été donnés, sur l'Europe. Alors l'Europe des 27, et l'Europe des 27 étendue, ça va jusqu'à une quarantaine de pays. On va voir un peu ce que ça donne. Donc autour de la pollution de l'air à travers les nanoparticules, notamment les PM 2,5 et les nanomètres 2,5 et 2,5 nanomètres pour les particules, et puis pour des gaz toxiques émis essentiellement par les automobiles, enfin le transport routier à base de moteurs thermiques. Donc, les chiffres sont ceux-là aujourd'hui. Dans l'Union européenne étendue, 269 000 décès sont imputables aux nanoparticules. Ramené à l'Europe des 27, c'est 239 000, et ramené à la France, c'est 21 000. Donc en France, d'après les études, il y aurait à peu près 21 000 morts liées à ces nanoparticules. Si on prend en compte les morts liées aux gaz toxiques, aux autres gaz toxiques liés au transport à l'aide de moteurs thermiques, on est à 147 000 décès imputables à ces gaz toxiques pour l'Union européenne. Donc aux alentours de un peu plus de 12 000 pour la France. Ces chiffres, alors, est-ce qu'ils sont importants ou pas? Alors, c'est un mort, c'est toujours un mort de trop, surtout quand on sait qu'on peut faire en sorte que la pollution devienne tellement faible qu'il n'y ait plus de gens qui en souffrent. Mais ça, il n'y a pas cette volonté-là, même si il y a eu une grosse réduction. On peut dire qu'entre 2005 et 2022, le nombre de décès liés aux nanoparticules a diminué de 45%. C'est pas mal quand même. Et l'objectif, c'est 2030, une réduction de 55%. C'est totalement atteignable, on l'a vu, on est arrivé à faire baisser ça en 17 ans. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. En fait, les politiques sur les contraintes, sur les constructeurs de voitures, c'est sur ça essentiellement que ça joue, ont pour l'instant porté leurs fruits. Alors il y a des limites. Des limites, parce que la voiture électrique qui est censée être vachement mieux et tout ça, sur les nanoparticules, elle l'est pas tant que ça. Elle l'est un peu, mais il y a quand même des problèmes d'usure de pneus et de freins, même si une voiture électrique bien conçue use beaucoup moins les plaquettes de freins. Enfin voilà, c'est pas idéal, mais en tout cas, on va dans le bon sens, et pour une fois, je donne une bonne nouvelle. Voilà, on est arrivé carrément à diviser par deux, quasiment, à diviser par deux. Ça, toi, si tu t'endors, tu le dis, mais...
Oh non, j'attendais juste de m'assurer que tu avais bien mis un point. Alors, on va revenir du côté de la Corée du Sud, ou plutôt nous allons partir en Corée du Sud. Je vous rappelle que la semaine dernière, le président Yoon a décidé comme ça, hop là, d'un seul, de proclamer la loi martiale, et hop là, comme ça, il a dû l'abroger 6 heures plus tard. Il faut dire qu'il y a eu une pression du Parlement. Petite décision, je vous avais dit qu'il y avait une motion de destitution qui devait se passer samedi, qui devait être votée. Bon, ça a échoué, mais parce qu'il faut dire que les députés du Parti du Pouvoir au Peuple, le PPP, a boycotté, et donc en boycottant a fait invalider le scrutin faute de quorum, mais l'opposition ne dit pas son dernier mot, et ce samedi 14 décembre, rebelote. Alors ça pourrait marcher, parce qu'il faudrait qu'il y ait 8 députés du PPP qui votent. Il faudrait savoir qu'il y en avait déjà 2 la première fois, là il y en a 3 qui ont déjà dit que ça pourrait y aller. Ah, ça tire pas grand-chose hein, quand même. En tout cas, Monsieur Yoon, il plonge dans les sondages. La cote de popularité est à 13%. Même Macron, il fait mieux. Pour vous dire quand même que c'est pas facile. Hein. En tout cas, le président Yoon, il a donc une enquête pour rébellion hein, aux fesses. Et on a appris que, ça va vite hein, quand même en Corée du Sud, Monsieur Yoon, l'ancien ministre de la Défense, oui parce qu'il est ancien, l'ex-ministre de l'Intérieur, oui parce qu'il est ex, et le commandant de la loi martiale ont interdiction de quitter le territoire. Alors du côté évidemment des partis d'opposition, ça s'agite. Par exemple, le chef du Parti démocrate, Monsieur Park, accuse le PPP et Monsieur Yoon d'organiser un deuxième coup d'État en s'accrochant au sommet de l'État et en refusant de destituer le président Yoon, je cite, bien évidemment, et que le président Yoon et sa clique se rendent coupables de manœuvres illégales et anticonstitutionnelles pour continuer à gouverner. Alors, il faut dire que c'est marrant quand même. Surtout quand ils sont à droite, ils sont marrants. Mais bon, à gauche, certains nous ont fait des trucs qui craignent aussi. Hein. Alors, du côté de Monsieur Yoon, on dit qu'il va se battre jusqu'à la dernière minute, je cite, et il accuse donc l'opposition de provoquer une crise nationale. C'est partout pareil. Hein. Nous, on a l'émotion de censure, ils ont l'émotion de destitution, mais au final, c'est toujours la faute de l'autre. Ça, c'est quand même un truc de marrant. En tout cas, il s'accroche, le Yoon, ça, il veut rien lâcher, parce qu'en fait, du côté de l'opposition, on explique que Monsieur Yoon, il veut demeurer à son poste et abandonner les pouvoirs au Premier ministre. Sauf que, bon, je l'ai dit, ex-premier ministre, tout ça, c'est compliqué. Sauf que ça serait une violation de la Constitution et qu'il n'y aurait pas de base légale pour faire ça. C'est-à-dire que le président, il ne peut pas dire oula, moi je lâche tout, puis je donne au premier ministre, mais quand même, je reste président. Vous voyez, ce serait un peu facile. Faire un peu à la Poutine. C'est un petit côté, quand même, un tout petit peu curieux. Puis, c'est pour ça qu'ils accusent de vouloir faire un deuxième coup d'État, puisque le premier était lors de cette déclenchement de cette loi martiale. Donc, bon, ça continue. C'est pas simple en termes de politique. Alors, nous, on parle de crise politique, mais quand même, quand il chute, il y a un cran au-dessus, quand même. Pardonnez-moi. Hein. En tout cas, mercredi, hier, la police, elle a été empêchée de perquisitionner dans le complexe présidentiel. Ça, c'est dommage, hein, quand même. Bon, a priori, la police arrive quand même un petit peu à faire son travail. Et puis, donc, l'ex-ministre de la Défense, M. Kim Yoon-hyun, a tenté, a priori, de se suicider en détention.
Non.
Si. Alors, il aurait été détenu depuis dimanche, mais formellement arrêté mardi de cette semaine par un mandat du tribunal, donc un mandat d'arrêt contre lui. Et ça y est, cette fois officiel, mais il était déjà... mis en détention depuis dimanche. Il a donc démissionné le 5 décembre. Hein, voilà. Il est accusé d'avoir joué un rôle crucial dans cette affaire et d'avoir commis un abus de pouvoir pour entraver l'exercice de droit. Bon, c'est pas simple. Il faut savoir qu'à côté de ça, on a le commissaire général de l'agence de la police nationale qui a été arrêté et aussi le chef de l'agence de la police métropolitaine de Séoul hier. Donc, tous ces deux personnes ont été arrêtées. Donc, ça tombe un petit peu les têtes hein, quand même. Enfin, les têtes, pour l'instant, elles sont bien accrochées au cou. Mais en tout cas, certains ont chaud aux fesses. Et puis, on attendait des réactions quand même. Parce que je vous rappelle que si Monsieur Yoon a lancé cette loi martiale, c'est parce qu'il y avait les vilains de l'opposition qui se serait accoquiné avec la Corée du Nord pour déstabiliser la Corée du Sud et faire tomber la démocratie. C'est pour ça qu'il avait mis la loi martiale, je vous rappelle, hein, quand même. C'était pour protéger le peuple de la Corée du Sud. Donc on attendait de savoir ce qu'en pensait le Nord, bien évidemment. Donc les médias, évidemment, les médias, nous y mettons des guillemets, hein, nous entendons bien dans le média de transmission et non pas dans le terme de presse démocratique et de liberté de parole. Donc les médias du Nord ont commencé à faire des déclarations en disant que cet acte était choquant. C'était l'acte choquant de la marionnette Yoon qui fait face à une destitution et à une crise de gouvernance, déclarant soudainement un décret de loi martiale et brandissant sans hésitation les armes à feu et les couteaux de sa dictature fasciste. C'est beau, hein. C'est beau, hein. J'ai fait mis un peu du blanc pour que vous encaissiez quand même le choc. Bon, en tout cas, c'est donc le merdier. Les gens continuent à aller dans la rue. Hein. Il y a toujours des gens qui manifestent pour que l'autre y dégage, qu'il accepte enfin de quitter le pouvoir. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Monsieur Yoon, il a quelques amis bien fachos. Toute cette frange patriarcale de droite, bien conservatrice, continue à le soutenir. Bon, on peut penser que quand même cette fois, il pourrait tomber samedi. En tout cas, une partie de la Corée du Sud l'espère. Mais ce qui est marrant quand même, c'est que on apprend plein de choses maintenant, puisque l'ex-ministre de la Défense, Monsieur Kim, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui, il est accusé par les députés d'avoir voulu lancer une crise avec le Nord, avec la Corée du Nord, et qu'il aurait donc décidé d'ordonner d'envoyer des drones sur Pyongyang. Pour créer un casus belli, je cite, avec le Nord, qui aurait donc servi de prétexte pour dire après, bah si, regardez, la loi martiale, elle est vachement bien.
Ah oui, oui.
Vous voyez, alors, je n'ai pas la preuve de cette avancée, ça c'est des propos hein, de l'opposition, mais en tout cas, oui, ça tangue quand même, hein, parce que ça voudrait dire que si c'est vrai, ce qui est fort possible, on a quand même une droite conservatrice très fascisante, hein, là, qui quand même est prête à tout pour garder le pouvoir.
C'est une tradition en Corée du Sud.
Oui, je vous rappelle que c'était pour garder le pouvoir, pour éviter d'avoir des problèmes avec la justice. Ouais. À la base, c'est quand même ça le problème. Hein. C'est pas. Enfin, bon, c'est quand même dingue. En tout cas, comme c'est la Corée du Sud, il se passe toujours plein de trucs et il y a toujours du scandale dans l'air. Et là, le scandale, il vise un membre d'un des partis de l'opposition, Cho-kuk, qui aujourd'hui a vu une peine de prison de 2 ans ferme confirmée à son encontre en dernière instance. Il perd donc son siège de député. Ça la fout mal quand même quand t'es dans l'opposition. C'est la Cour suprême qui a définitivement donc confirmé ce jeudi sa peine de 2 ans de prison ferme et une amende de 6 millions de won. 6 millions de won, ça fait beaucoup comme ça en won, mais en vrai, Corée, ça fait ça beaucoup fait moins. Ça, ouais. Donc c'est le chef du parti de la reconstruction de la Corée, c'est le deuxième mouvement de l'opposition, ça craint quand même, hein. C'est l'ancien ministre de la justice du président Moon, là, qui était le prédécesseur de, du président Yoon. Donc c'est, il avait été inculpé en décembre 2019, accusé de corruption et de falsification de documents dans le but d'aider ses enfants à accéder à des établissements de l'enseignement supérieur, entre autres choses. Je vous rappelle, Madame Park, elle est tombée pour genre de conneries quand même. Ancienne présidente, hein, vous savez, je vous en avais parlé longuement dans ces émissions du jeudi. En tout cas, ça la fout mal de voir que c'est une autre, la démocratie touche aussi les partis de gauche en Corée du Sud. C'est quand même une démocratie assez gangrénée par cette corruption. Petit pouvoir.
Et ben retour sur des infos locales, sur la ville de Lyon, puisqu'on a appris que le maire de Lyon, Grégory Doucet, écolo a priori, a déclaré donc hier vouloir augmenter jusqu'à 10% le nombre de non pas d'arbres, non pas de vélos, non pas ça, de zones piétonnes, mais de caméra de vidéosurveillance.
Vidéoprotection.
Non, vidéosurveillance. Ah. Bon, alors il a dit je vais solliciter le collège d'éthique, il y a un collège d'éthique pour poser des questions, enfin voilà. Bon, il va augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, pourquoi il fait ça maintenant? Alors, on sait que le deuxième mandat va arriver en 2026, donc il commence à mettre certains sujets hors écologie sur le devant. On sait qu'il est taclé par la droite depuis un moment sur ce sujet-là, donc il se dit, je vais faire une mesure de droite sécuritaire à deux balles pour faire ça, donc il va racheter des caméras, en installer d'autres. On se rappelle de la visite en 2021 de Darmanin, hein, qui était alors ministre de l'Intérieur, qui avait demandé officiellement de sortir de l'idéologie, disait-il, et de renforcer la vidéosurveillance dans les quartiers, notamment abritant des trafics de drogue. Donc là, Doucet, il avait répondu à l'époque que Lyon était une des villes les mieux équipées en caméras de vidéosurveillance. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas, c'est inquiétant quand même. Au final, par rapport à ça, il y a cette fameuse idéologie qu'aurait eu Doucet d'être contre la vidéosurveillance. On rappelle qu'eux, ils sont dans l'idéologie de surveillance et de contrôle des populations. Une mesure totalement antidémocratique, hein, puisqu'à partir du moment où on surveille, on a vu l'utilisation qu'on peut en faire de la vidéosurveillance, quand ils verraient les clodos, par exemple. En plus, on attend toujours que ces gens nous amènent une étude sur la criminalité, enfin la baisse, soi-disant, de la criminalité, de la délinquance, des vols, des viols, de la corruption, enfin de toute cette criminalité, grâce à l'outil de vidéosurveillance. Pour l'instant, on la voit pas. Hein. Elle est essentiellement est utilisé d'ailleurs a posteriori. Quand il s'est passé quelque chose, on cherche sur les images si on voit. Mais ça n'empêche pas les choses d'arriver. Donc en fait, c'est assez peu utile à part rassurer le petit bourgeois de droite. Sinon, ça ne sert à rien d'autre. Alors, le problème, c'est que ce maire écolo, il reprend le discours de la droite et de l'extrême droite en disant, par exemple, la sécurité, c'est une priorité pour lui. On rappelle que l'essentiel de la sécurité, c'est même pas lui qui le fait, c'est le préfet, c'est-à-dire l'État. Bref. Voilà, il a attaqué. Alors, on a eu Georges Képénékian qui est monté au créneau. Lui, il est dans le groupe progressiste et républicain, mais en fait, c'est un mec de droite. Hein. Lui, il défend la vidéoprotection. Il utilise bien ce terme-là. On rappelle que c'est le terme utilisé, la novlangue, pour oublier le mot vidéosurveillance dont il est question. Bref, tout le monde y va, tacle Doucet sur son changement d'avis. Nous, on est plutôt inquiet du changement d'avis, hein, parce que bizarrement, tous ces gens-là qui réagissent sur la caméra de vidéosurveillance, sur le moindre petit fait divers, quand le maire de Caluire, là, Philippe Cochet, a été condamné hier à 5 ans d'inéligibilité pour avoir détourné de l'argent public, volé 800 000 euros, oui, 800 000 euros. Donc ils doivent rembourser 712 378 euros à l'Assemblée nationale, lui et sa femme, puisqu'en fait il a payé sa femme pour faire autre chose, et 97 941 euros à France Travail. Là, bizarrement, on botte un petit peu en touche, alors que finalement, s'il y a des caméras de vidéosurveillance à mettre, c'est peut-être dans le bureau des élus, pour éviter qu'ils volent l'argent public, parce que je suis pas sûr que qu'il y ait eu une fois une caméra de vidéosurveillance qui ait pu arrêter un voleur qui volait 800 000 euros dans la caisse. Hein. Donc voilà, c'est le cas de leur ami de droite, Monsieur Cochet, hein, qui était une sorte de fer de lance, hein, de la droite lyonnaise, qui est tombé. Donc voilà, du coup, on constate une droitisation des élus écolos sur certains sujets, on le savait déjà, sur les enfants qu'ils laissent à la rue encore actuellement. Ils sont sur une politique plutôt de droite ou de centre-droit quand ça sort de l'écologie. Ça fait réagir. Il y a le collectif Technopolis Lyon qui a posé une question officielle sur à la mairie de Lyon. Vous pensez quoi de la vidéosurveillance algorithmique, celle qui suit, permet de suivre les gens, là, de repérer les visages, tout ça? Pour l'instant, pas de réponse, mais ils ont lancé le débat. On va voir ce que va faire cette mairie un petit peu trop à droite quand même.
Mais tu sais que c'est le bazar chez la droite LR pour les élections de la métropole. Il doit y avoir une primaire ce dimanche. Il y a des demandes pour les repousser. Alors il faut dire que la chute du maire de Caluire, ben ça la fout mal. Et puis il y a les problématiques de savoir quel gouvernement il va y avoir. Et puis ils se foutent sur la gueule LR pour savoir s'il faut ouvrir ou pas hors du groupe actuel de Métro Positive, c'est-à-dire continuer à avoir des amis à droite et pas que chez les LR. C'est marrant la politique aussi. Local, parce que ça n'a pas l'air simple à droite.
Non. Voilà, c'est la fin de ce
cas. Et parce que j'aime bien donner une information jusqu'au bout, il y a 34 955 de communes en France. J'allais dire 36 000, mais non.
Oui. Voilà. Et donc, il y en a 4 000 qui ne donnent pas les infos sur le tritium. Il est 20h, on va vous laisser avec les bandes continues de la plus rebelle des radios. On se retrouve la semaine prochaine.